Ouvrez vos Bibles dans Genèse chapitre 26. Un long passage, on va prendre quelques versets. Et donc, je vous invite à vouloir suivre. Genèse chapitre 26. Il y a eu une famine dans le pays. Autre, la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays. » Que je te dirai, séjourne dans ce pays, si je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Et ainsi Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur !» Il craignait de dire que c'était sa femme, de peur d'être tué par les gens de l'endroit parce que Rebecca était belle. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui bandinait avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « C'est donc ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Puis ça ne fallut que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimélec fit passer un ordre à tout le peuple en ces termes. « C'est lui qui touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. » Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petits bétail, un cheptel de gros bétail, un gros nombre de serviteurs aussi, les Philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qui avaient creusé les serviteurs de son père, au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar où il habita. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé dans le temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblé après la mort d'Abraham. Il les appela du même nom dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous !» Il donna donc le nom d'Ézek, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent encore un autre puits, au sujet desquels on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il leva le camp de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne cherchait pas querelle, et il appela Rehoboth, car il dit, « L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. » Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi, je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits. Abimélec s'est rendu auprès des puits de Guérar. Abimélec s'est rendu auprès de lui depuis Guérar avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous m'haïssez et que vous m'avez envoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous, concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, et nous t'avons fait seulement du bien, et que nous avons laissé partir en paix, toi qui maintenant es béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un l'autre, et Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé, en lui disant, « Nous avons trouvé de l'eau. » Isaac appela Shibéa, ce puits-là. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, Littite, et Basmat, fille d'Élon, Littite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. C'est assez long comme passage, 35 versets. Ça nous fait penser beaucoup à ce qui est arrivé avec son père Abraham. Il y a beaucoup de ressemblances, c'est vrai, dans le chapitre antérieur qu'on a vu Abraham. Mais ce que je peux voir dans ce chapitre, mes frères et sœurs, c'est vraiment la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. Une réitération de l'alliance avec Abraham, du verset 1 à 6. La parole de Dieu, dans 2 Timothée 2, 13, que nous sommes infidèles, mais Dieu est toujours fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier à lui-même. Il ne peut pas changer. Lui est fidèle toujours. Puis on peut goûter à tous les jours de la fidélité de Dieu dans nos vies. Comment il a été fidèle envers Abraham, il l'est aussi maintenant avec Isaac. Et c'est particulier, frères et sœurs, que c'est juste ces chapitres-là, le chapitre 26 de la Genèse, qu'on voit vraiment un dialogue, une relation vraiment personnelle entre Dieu et Isaac. On voit que Dieu parle deux fois à Isaac. Je ne dis pas que dans les autres chapitres, Dieu ne parlait pas avec Isaac. Mais là, on voit directement que Dieu se dirige vers Isaac. Et d'ailleurs, Abraham était mort. Puis on voit aussi que Isaac a prié pour son enfant, pour que Rebecca devienne enceinte. Et puis on voit dans d'autres chapitres aussi, avant le chapitre 26, que Dieu bénit Isaac. Mais dans ce chapitre particulièrement, on voit vraiment la relation personnelle entre Isaac et Dieu-même. Ce n'est plus avec Abraham, c'est vraiment le Dieu d'Isaac aussi. C'est pour ça que la parole dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est une relation personnelle. Et vraiment, c'est la relation entre Dieu et nous, c'est vraiment personnel. Ça ne passe pas par nos parents, ça ne passe pas par nos, je sais pas, par nos frères. Ça passe vraiment directement avec Dieu. Et on peut voir, en commençant le chapitre, il y a eu une famine. L'auteur spécifie vraiment c'était une autre famine que dans les temps d'Abraham. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais c'est une autre famine. Mais pourtant, il y a un peu le même, personnage, Abimélec. Et on voit qu'il se dirige vers Guérar, la terre des Philistins. Mais son but, vraiment, si on lit dans le verset 1, là, le but d'Isaac était vraiment d'aller vers l'Égypte. Okay? Pourquoi on voit ça? On voit dans le verset 2, l'Éternel dit, regardez dans vos Bibles le verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne t'en va pas en Égypte. On voit la différence entre Abraham. Abraham est vraiment parti, là. Okay? Dieu n'a pas parlé avec lui. Il est vraiment parti, puis il a eu des conséquences. Il a été chassé de l'Égypte. Mais dans ce cas-là, Dieu n'a pas voulu que Isaac aille en Égypte. Donc, il lui dit, ne va pas en Égypte. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Demeure dans le pays où je te dirai, en plus, il dit. Il allait lui conduire dans un endroit où il allait le conduire, peu à peu. Donc, demeure dans le pays que je te dirai. Donc, dans ces moments-là, Dieu promet vraiment à Isaac de vraiment le guider. Et le verset 3 du chapitre 26, encore, il lui dit, « Je te bénirai, personnel avec lui, je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toute cette terre. » Puis dans le verset 4, c'est un verset 4-5, c'est quelque chose déjà connu pour nous, hein, vraiment. Ça répète dans plusieurs chapitres le reste de la révélation de Dieu. Une répétition, vraiment, c'est une répétition de l'alliance avec Abraham. Puis ça, on peut le voir dans Genèse 13, dans la Genèse 15, 18, 17, 21, 22. Ça se répète beaucoup, là. Donc, pour nous qui lisons ça, c'est quelque chose de répétitif. Donc, ça rentre comme automatiquement. Mais il ne faut pas négliger que pour Isaac, c'était vraiment la première fois que Dieu disait à Isaac, c'est pour lui la promesse aussi. Pour lui, ce n'était pas une répétition des mots, là. C'était vraiment quelque chose d'important, ce que Dieu avait promis à Abraham. Il promettait maintenant à son fils. C'est ici l'alliance aussi avec Isaac. Isaac doit croire à la promesse de Dieu et accepter comme sa relation personnelle et de vivre dans l'obéissance comme son père l'avait vécu ici envers Dieu. Je suis encouragé de savoir qu'on est vraiment dans le chapitre 26. Écoutez, la Genèse comporte 50 chapitres. Donc, on est rendu vraiment dans le chapitre 26. On a dépassé la moitié. C'est bon. Donc, Dieu voulant, on va le finir cette année. Non, peut-être pas cette année, là, mais Dieu voulant, on va finir le livre de la Genèse. Puis là, on voit vraiment, presque au milieu de ces livres-là, la relation de Dieu avec Isaac, personnelle. Mais si on commence à lire dans le verset 7, okay, si vous avez vos Bibles, dans le verset 7, il y a quelque chose de particulier. La répétition du péché d'Abraham. C'est drôle, c'est quand même spécial à voir ça. Hein? Quoi dire de ce... c'est ma sœur, il dit. Il répond, c'est ma sœur. Et encore pire que son père, hein? Parce que son père, c'était un peu la moitié. Hein? C'est quand même sa sœur, moitié sœur. Mais lui, là, Isaac, là, c'était pas du tout, là. Puis il ment carrément. Ce n'est pas un demi-mensonge, là, c'est un mensonge entier. Il dit, c'est ma sœur. Il craignait vraiment dire que c'était sa femme. On peut dire quoi? Tel père, tel fils? Moi, je dirais pas ça. Et je dirais pas ça, tel père, tel fils. Oui, c'est vrai que nos enfants peuvent commettre les mêmes erreurs que nous. Mon frère Dom dit des fois, oh, je me vois dans mes enfants. C'est vrai que des fois, on a certaines, comment je peux dire ça, influences sur nos enfants. Okay? Ça dépend aussi de la façon comment on peut enseigner nos enfants de nos erreurs. Je ne sais pas si Abraham avait enseigné à Isaac qu'est-ce qui était arrivé dans la même circonstance. Je ne sais pas si Abraham avait enseigné. Et même s'il aurait montré que c'était une mauvaise chose, peut-être il aurait fait la même chose, il aurait menti pareil, parce que nous sommes tous des pécheurs, malheureusement. Puis on a peur. Puis lui, il avait peur vraiment qu'il se fasse tuer. Il a dit, non, Rebecca, c'est ma sœur. Il mettait en péril même la vie peut-être de sa femme pour sauver sa peau. Et donc, c'était quelque chose là. Mais la même chose que je pense qu'Abraham arrive dans ce chapitre-là, dans ce verset-là. Tous deux, comme son père, ont péché devant Abimélec et tous les deux sont réprimandés par le roi des Philistins. Il y a quand même des ressemblances. Tous deux avaient des femmes très belles et avaient peur de leur propre sécurité, pensant qu'ils pourraient être tués pour quelqu'un qui puisse marier leur femme, pour que quelqu'un puisse marier leur femme. Tous les deux mentirent en disant que leur femme était leur sœur. Tous les deux. Il semblait aussi que les deux ne réalisaient pas la gravité du péché, là. Vraiment. Puis côté repentance, peut-être pas non plus. Puis on voit là dans le verset 8 que ça faisait longtemps qu'Isaac était en terre des Philistins. Hein. Il semblait qu'il y avait peu de doutes au sujet d'Abimélec. Les gens qui ont étudié ces deux passages, on pense que il y en a qui disent que c'est le même Abimélec, mais ils sont arrivés, et ça s'est passé environ quelques dizaines d'années, là, 50 années, donc c'est peu probable que ce soit le même Abimélec. Et plus tard, on voit Picol aussi, le nom de Picol, le chef de l'armée. Plutôt, ça serait comme des titres qu'on voit dans ces passages-là, des titres Abimélec et Picol. Mais c'est sûrement ta femme. Pourquoi tu as dit ça, dit Abimélec? Pourquoi tu m'as menti? Qu'est-ce qui a fait dire ça à Abimélec? Le fait que Isaac était dehors, puis il était en train de peut-être caresser sa femme, ou pas comme sa sœur, là, okay? C'est très évident. Okay? Puis Abimelech l'appelle, il dit, écoute, tu m'as menti, là, c'est pas ta sœur, là. C'est vraiment ta... Peut-être Isaac était très, très colleux, comme on dit, très affectif, voilà. Donc, c'est là qu'il s'est rendu compte, Abimelech, il lui a dit, écoute, je t'ai vu, pourquoi tu as fait ça, là? L'éthique d'Abimelech apparaît être basée sur un standard plus élevé qu'Isaac, hein, on dirait. Aussi, la pureté conjugale semblait être plus sacrée pour Abimelech et pour Isaac. Et il y avait aussi la peur d'Isaac. Après avoir découvert le mensonge, Abimelech ordonna que personne ne touche, qu'est-ce qu'il dit? À lui ou à sa femme, que personne, dans le verset 11, que personne ne touche ni à Isaac ni à sa femme. Il n'a pas ordonné de, il a pas ordonné de partir, comme dans le cas d'Abraham. Il a dit, reste là, mais personne ne va les toucher. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Isaac a compris, là, il s'est rendu compte qu'il y avait, ce que Dieu lui avait dit auparavant, séjourne dans ce pays, je suis avec toi, et je te bénirai. Je pense qu'il s'est rendu compte, il a dit, waouh, j'aurais pu dire la vérité, et Dieu m'aurait protégé, parce qu'il m'a dit, je suis avec toi. Mais il a menti. Sûrement, il éprouvait la honte et aussi, un peu comme Abraham, un peu la repentance. Mais là, on voit dans ce chapitre-là qu'à partir du verset 12, ça prend une autre tournure, là, vraiment, le passage. Là, parce qu'on voit là, ici là, que Isaac est dans la terre des Philistins, puis tout arrive... Tout semble bien se passer. Isaac, il vivait comme peut-être comme eux, incognito. Mais tout arrive quand on arrive à savoir que c'est vraiment sa femme. Là, on identifie vraiment Isaac. Et puis là, je vois aussi, je pense qu'Isaac se rend compte que Dieu est vraiment avec lui. Il n'avait pas besoin de mentir. Il n'avait pas vraiment besoin de mentir. Est-ce que ça vous arrive de mentir des fois? Oui, ça m'arrive. Donc, il faut demander à Dieu, il faut demander à Dieu de nous aider. Et il est fidèle, il va nous protéger, il a promis. Donc ça nous arrive. La fidélité de Dieu est vraiment éternelle. Dieu est fidèle, c'est en sa nature, il est toujours fidèle, malgré nos fautes, il est toujours fidèle. Et on voit tout de suite le changement, hein? Si vous lisez dans le verset 12... Isaac sema dans ce pays, ok, et il récolta cette année, quoi? Le centuple, car l'Éternel, quoi? Le bénit, car l'Éternel... Est-ce que c'était à cause qu'Isaac était fort, là, puis il était rapide pour semer? Non, là. Il dit que l'Éternel, il donne le centuple. L'Éternel bénit Isaac. Puis c'était un temps de famine, en plus, hein? Mais l'Éternel le bénit au centuple. Et encore, lisez le verset 13. Cet homme devint, quoi? Riche. Et en plus de ça, et il alla s'enrichissant de plus en plus. Et pas juste ça, au point d'être vraiment fort riche. Trois choses, là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'Isaac était vraiment riche et était puissant? Oui, vous êtes d'accord avec moi de dire ça? Mais oui. Et cela engendre quoi? La jalousie. La jalousie et le mépris, le rejet aussi de la part d'Abimelech et des Philistins. Et qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font les Philistins? Ils remplissent les trous, ils remplissent les puits de son père Abraham, ils mettaient encore à cause de la jalousie, ok? Ils remplissaient des terres, tous les puits qu'Abraham avait ouverts, ils appartenaient aussi à Isaac, à cause de la jalousie. Et les Philistins, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Isaac, pars de chez nous, va-t'en. On ne veut pas te voir là, tu es devenu trop puissant. Quelle est la réaction d'Isaac? Il aurait pu dire, non, je ne pars pas là. Il était puissant ou non? Il était puissant, donc il aurait pu rester là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il s'en va. Plutôt à se battre pour la possession de cette propriété, Isaac se retira. Puis il attend que Dieu vraiment le guide, juste au moment pour qu'il puisse prendre possession de toutes ces terres-là. Il semble qu'Isaac a développé une stratégie par laquelle il devait définir où aller s'installer, ok? En fuyant les conflits. Je pense qu'Isaac a pris cette attitude-là. Il fuit les conflits. Il voit ça comme que Dieu le guide pour pouvoir aller où Dieu allait le guider. Non seulement ouvrit après, rouvre le puits de son père, après, dans les prochains versets, il commence à rouvrir, comme on peut dire, là, les puits de son père, sinon il commence à creuser d'autres puits. OK? Il commence à creuser d'autres puits. Ces puits étaient une nécessité pour survivre, mais les Philistins, ils représentaient des titres de propriété. Pour les Philistins, là, était vraiment quelque chose de la puissance, pouvoir, de prendre ces puits-là d'Isaac. Donc, l'opposition, là, pour Isaac, était vraiment humaine, mais c'est, pour Dieu, c'était vraiment le moyen pour guider Isaac, le fait de l'opposition qu'avait Isaac. OK? Les gens s'opposaient à ce qu'Isaac faisait. Donc, ils voulaient prendre ces puits. Et Isaac reculait, il bougeait. Donc, c'est ça le moyen que Dieu utilisait pour vraiment Dieu montrer à Isaac qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Et encore, on voit que les bergers philistins cherchaient encore querelle. Finalement, un puits est creusé, là, qui amenait pas d'opposition. Et il donne un nom, là, Isaac, à ce puits-là, il l'appelle Rehoboth. Okay, signifiant quoi? Large espace. L'espoir d'Isaac dans ce pays était l'endroit où Dieu voulait qu'il reste, vraiment. Là, vraiment, Dieu, on dirait qu'Isaac a compris, là. C'est vraiment là que Dieu veut que je reste. Rehoboth. Mais encore une autre chose dans ce chapitre-là. Il arrive quelque chose d'étrange, OK? On dirait pour nous aussi que, bon, vu qu'il n'y avait pas d'opposition, Isaac dit, bon, je vais rester là. Mais c'est pas ce qui arrive, ça. C'est pas ce qui arrive, là. Lisons le verset 23, là. Qu'est-ce qui arrive? Le verset 23, il s'en va vers Beersheba. Jusqu'à présent, la décision d'Isaac concernant où il devrait être, ça dépendait des circonstances. C'est-à-dire, s'il y avait l'hostilité, il bougeait. Mais maintenant, ayant creusé un puits, pas contesté, nous dirons, bon, il va rester là, mais non, il se dirige vers Beersheba. Sans explication. Le verset dit juste, il s'en alla, mais il était en paix, mais il s'en alla vers Beersheba. Je crois qu'un changement important est arrivé dans la vie d'Isaac. Auparavant, les circonstances prenaient le devant. Mais un sentiment plus noble, on voit ici dans la vie d'Isaac. Beersheba, vous savez, ce fut le premier endroit où Abraham soit allé avec Isaac après être descendu du mont Morija. Vous vous rappelez, quand Isaac allait être sacrifié, après être descendu de là, il s'est rend à Beersheba. Isaac savait que Dieu avait juré de lui donner la terre promise à son père. Il était témoin de tout ça, Isaac. D'ailleurs, quand Isaac allait être sacrifié, ce n'était pas un petit de 2-3 ans, là. C'était quelqu'un qui comprenait déjà. On voit déjà le caractère d'Isaac, soumis à son père. On voit le caractère d'Isaac. On ne voit pas que Isaac se bat là pour sa vie, non. Il comprend, il dit, il est où l'agneau pour le sacrifice? Je pense qu'il a compris quand il était dessus, là, il a compris qu'il c'était lui, là. Mais il était soumis à son père. On voit vraiment déjà le caractère d'Isaac. Ce n'est pas Abraham. Isaac est différent d'Abraham. Abraham a eu des temps de guerre. Jacob aussi, mais au milieu, le fils de la promesse, dans ce chapitre 26, son caractère est complètement différent. Est complètement différent aux autres. Je crois finalement que réaliser que pour toute l'opposition à propos des puits qu'il avait creusés, Dieu le ramena vers la terre promise, vers l'endroit où Abraham avait une relation personnelle avec Dieu. Abraham, il avait une relation personnelle avec Dieu à Beersheba. Et Isaac répond à Dieu, il le suit. De là, il monta à Beersheba. La décision fut la bonne. Savez-vous pourquoi? Comment Isaac aurait pu savoir que vraiment c'était la bonne décision à prendre de monter à Beersheba? On le voit dans le verset 26, dans le verset 24. L'Éternel lui apparut cette même nuit-là. Il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, soit que... » Quoi? Sois sans crainte, car moi, je suis avec toi. Personnel encore, une relation personnelle avec Isaac. Je suis encore avec toi. Et remarquez la réaction d'Isaac est complètement différente à avant. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Isaac? Isaac bâtit un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente et ses serviteurs creusaient un puits. Avant, les serviteurs creusaient un puits avant, puis après, ils attendaient la réponse de Dieu. Mais maintenant, non. Il était sûr que c'était l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. Isaac bâtit un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente et les serviteurs creusèrent encore un puits. N'est-ce pas notre Seigneur qui dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. » Cherchez vraiment. Isaac était à la recherche de vraiment une relation personnelle avec Dieu, son Dieu. Dans le verset 26 à 33, on voit encore Abimélec qui revient. Vous le voyez revenir et en plus il dit, nous n'avons fait aucun mal. On vient faire une alliance avec toi. La réponse de ces gens quand Isaac était là était l'envie et l'animosité. Mais on voit une réaction différente qui provoque un changement dans l'esprit d'Abimélec. Là, l'attitude d'Isaac envers Abimélec, je pense qu'il provoque un changement. Maintenant, il ne vient pas à lui dire « Va-t'en encore d'ici, là. » Il vient faire vraiment une alliance avec Isaac. Voyons ce qui a déterminé cette réussite pour Isaac dans quatre faits. Okay? Quatre faits dans tous ces versets-là, quatre faits qu'on peut voir. De un, l'effort. Creuser un puits, vous pensez que c'est facile? Dans ces temps-là, ici maintenant, creuser un puits, c'est avec une machine, là, je pense que, quelques heures, c'est fini. Mais là, avant, je pense que j'étais en train de lire, là, des fois, il y a des 5 mètres profonds, là, puis les gens ils travaillaient vraiment fort pour creuser un puits. Puis on voit la réaction de Isaac face à la problématique. Il avait travaillé fort, là, puis il s'est déplacé. Donc, on voit l'effort, là, vraiment, que Isaac fait de creuser des puits. Puis c'est pas dans un endroit avec une piscine à côté, un lac, non, c'était vraiment le désert, très chaud, puis il y avait la roche. Il fallait vraiment faire un effort pour creuser ces puits-là. On voit aussi dans Isaac sa persévérance, la persévérance des bergers d'Isaac. Souvent dans le Nouveau Testament, nous trouvons des encouragements à persévérer. Soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Soyez toujours avec joie, persévérant et patient. On voit toutes ces qualités dans la personne d'Isaac. La paix. D'ailleurs, Isaac, là, ça veut dire sourire. Donc, je pense qu'il était quelqu'un de bon caractère. J'imagine, je ne sais pas. Je dis ça comme ça, mais je pense que son caractère était comme ça. La paix. C'était un chercheur de paix. L'attitude d'Isaac vis-à-vis à ses ennemis est le contraire que l'animosité ou la vengeance, la réaction habituelle de toute personne. Qu'est-ce que serait la réaction de toute personne là, face à ça? Mettons, je suis en train de creuser un puits, puis l'autre, il vient. Après 4 jours que je suis en train de creuser un puits, il dit, hey, écoute, ça c'est mon eau là. Qu'est-ce que serait notre réaction? Hey, attends là, c'est à moi là, j'ai travaillé fort. OK, le premier là, je vais te donner, OK, c'est bon. Mais là, le deuxième là, hey, wow! Ma patience a une limite, là. Est-ce que vous arrive des fois au travail, dans vos relations personnelles, ça vous arrive des fois de dire ça? Oui. Mais quelle est l'attitude vraiment? Quelle devrait être l'attitude devant l'injustice? Avez-vous pensé à ça quand j'étais en train de lire ça? Quelle est notre attitude comme chrétien face à l'injustice? On voit vraiment, vraiment l'attitude d'Isaac, là. Et vraiment, vraiment contraire au monde. Richard parlait que le royaume de Dieu est vraiment contraire à la pensée du monde. Et là, on voit vraiment la... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est la réaction de Isaac? C'était non-violence ou c'était de la faiblesse? Je pense que non. Vous savez, là, Jésus même dit dans Matthieu 5, versets 38 et 41, et c'est des versets quand même, « Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tendue aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais deux avec lui. » C'est contraire à la pensée du monde. C'est vraiment contraire. Quelle exigence! Mais quelqu'un a dit quelque part ça. Rendre le mal pour le mal est diabolique. Rendre le bien pour le bien est humain. Mais rendre le bien pour le mal est divin. Et c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. C'est la façon vraiment qu'on doit se comporter devant, surtout devant les non-croyants. On voit un bel exemple ici dans la vie d'Isaac. Augustin a dit, une remarque, il a dit, « Nombreux sont ceux qui ont appris à tendre l'autre joue sans savoir comment aimer celui qui les a frappés. » En effet, le but n'est pas de faire un acte par devoir, même envers Dieu, mais bien d'amener la personne à changer d'attitude. Et cela est possible en agissant comme Dieu le demande. Quand on agit selon Dieu, là, les autres regardent notre témoignage, ok? Puis ils voient vraiment. Et ça peut le faire changer d'attitude. On le voit un peu avec Abimélec ici, qui son attitude a changé. Paul utilise encore une image dans Romains 12, 17 à 21. Ça vaut la peine d'aller le voir, mes frères et sœurs. Romains 12, 17 à 21. Des fois, quand je lis ces versets-là, quand j'étais en train de lire ces versets-là, je pensais, waouh, comment Isaac a pu lire Romains avant d'agir. On dirait qu'il a lu ça, là. Regardez ça. « Ne rende à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Vous voyez Isaac là-dedans? Moi, je vois Isaac là-dedans. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance. » C'est moi qui rétribuera, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu ramasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Waouh! Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainc le mal avec le bien. Pierre aussi utilise un peu. De la même façon, ayez une bonne conduite parmi les païens. Pierre 1 Pierre 2 verset 12. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi même, s'ils vous accusent d'être des malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos œuvres bonnes et de louer Dieu le jour où il les visitera. On voit aussi l'attitude d'Isaac. Ça doit être aussi notre attitude. J'avais parlé des quatre points. L'effort, la persévérance d'Isaac, la paix, chercheur de paix, et aussi la présence de Dieu. Il cherchait vraiment à être dans la présence de Dieu. Ce qui assure vraiment la réussite d'Isaac. C'est vraiment ça, je pense, qui a fait changer l'attitude d'Abimélec. Vous voyez qu'est-ce qu'il demande quand Abimélec s'approche d'Isaac? Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous m'haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous? Et qu'est-ce qu'il répond à Abimélec? Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Il y a une différence là. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Du reste, c'est sûr que c'est cette attitude que Dieu avait assurée. C'est sûr, c'est l'attitude que Dieu avait assurée, la réussite à cause de ce qu'il faisait Isaac. Il se rappelle, je pense qu'Isaac se rappelle de ce que Dieu a dit, « Ne crains pas, je suis avec toi. Je suis avec toi. » Isaac a eu la bonne attitude face à l'oppression, face à tout ce qu'il avait dans le peuple de, de Philistins. Ça nous fait rappeler que Dieu est avec nous. Emmanuel, Jésus est toujours avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Proverbe 16, 7 dit, « Quand l'Éternel est favorable aux voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. » C'est littéralement, je pense, ce qui a fait Abimélech envers Isaac. « Quand l'Éternel est favorable aux voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. » Lorsque le Seigneur approuve, c'est peut-être dans d'autres idées, là, lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. C'est dans un langage plus dans la version français courant. Lisons encore une belle promesse dans Ésaïe 41. Ésaïe 41. Peut-être juste à écouter, peut-être on ne va pas aller chercher le verset. Ésaïe 41 dit, à partir du verset 10, « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion. Tous ceux qui ont irrité contre toi, se sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau où il n'y a point. Leur langue est desséchée par le soif. Moi, l'Éternel, je t'exaucerai. Le Dieu d'Israël, je ne t'abandonnerai pas. Je ferai jaillir les fleuves sur les dunes et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » C'est des belles promesses que Dieu nous fait. Après la dispute, le puits qu'il a nommé Ézéch, qui ça veut dire dispute, opposition, l'autre puits qu'il a ouvert, Sidna, arrive largesse, espace, Rehoboth, qui ça veut dire serment, Shibéa, du désert de la pauvreté du sol, l'Éternel a fait sortir l'eau vive en abondance. Nous aussi, nous sommes dans ce monde souvent cruel. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais Dieu a dit qu'il va être toujours avec nous. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle et qu'elles aient en abondance. Comptons avec la présence de Dieu dans nos vies. C'est vraiment l'attitude qu'on doit avoir. Chercher la présence de Dieu dans nos vies. Et on va faire des grandes choses pour Dieu. C'est quand même particulier, regardez dans le verset, dans le chapitre 25, quand Richard parlait la semaine passée, à la fin du verset, à la fin du chapitre 25, on lit que nous apprenons que Ésaü, il ne fait pas attention à la bénédiction de Dieu, il vend ça, son droit d'aînesse. Vous voyez là comment ça finit le chapitre 25, et particulièrement aussi ce chapitre-là finit par un peu de la même façon dans Genèse 26, 34 à 35. Ésaü montre à nouveau le peu d'intérêt pour les choses de Dieu. Il va chercher d'autres femmes et vraiment ses parents sont en désaccord. On voit vraiment le contraste de quelqu'un qui cherche Dieu et de quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Si dans votre vie maintenant, aujourd'hui, peut-être vous nous visitez, puis vous avez cherché, vous êtes en train de chercher Dieu vraiment. Vous avez trouvé peut-être des puits difficiles dans votre recherche à Dieu. Sachez que Jésus a dit, dans Jean 4, il dit, « Jésus lui répondit à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cet eau aura encore soif, en parlant de l'eau du puits. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est vraiment Dieu, c'est vraiment Jésus qu'on peut avoir la solution. Vraiment, on a soif de Dieu La seule solution, c'est Jésus. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Il s'est donné pour nous. On a célébré tantôt le repas du Seigneur. Il s'est sacrifié pour nous sur la croix. Il a payé la dette de nos péchés par pure grâce, vraiment par pure grâce. Il a fait pour nous, puis il nous offre cette vie éternelle en abondance. Si vous n'avez pas pris cette décision dans votre vie, venez nous voir, venez me voir, venez voir un frère ici, sœur, pour pouvoir encore approfondir en ce qui concerne chercher Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Et Dieu nous a pardonné, on a célébré tantôt, Dieu nous a pardonné tous nos péchés à cause de Jésus-Christ. Prions s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu as été fidèle, tu seras toujours fidèle malgré notre infidélité, Seigneur. Merci pour l'exemple d'Isaac, Seigneur. On voit vraiment un aperçu de ta vie sur terre, Jésus-Christ, chercheur de la paix, Seigneur. Merci, Père Céleste, pour cet exemple, Père, pour cet exemple dans la vie d'Isaac, Seigneur. Ça nous encourage à pouvoir poursuivre cette vie ici, sur terre, Seigneur. En sachant qu'un jour, on va être avec toi, Seigneur. On a l'espoir qu'on va être avec toi. On va vivre éternellement avec toi, Seigneur. Et Père, je te prie pour quelqu'un, si jamais quelqu'un ici dans cette salle ne te connaît pas, Seigneur, il n'a pas goûté assez tôt des vies éternelles, Seigneur, qu'il puisse le faire ce matin, en croyant de tout son cœur, de tout leur cœur, Seigneur, que toi seul, tu peux sauver. Et tu peux vraiment, Seigneur, combler à sa soif, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu permets dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen.
Amen.